des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour, ici Elisabeth Antebi qui reçoit pour un parcours Pierre-Marie Gallois, qui est de fait le général Gallois, à la fois personne extrêmement connue et extrêmement inconnue, puisque vous êtes à la fois l'homme de la grande période des avions d'assaut, l'homme de la dissuasion nucléaire du général de Gaulle, que vous avez pris votre retraite en 1957, alors que vous êtes né en 1911, et que depuis 1957, pour un retraité, vous êtes un joyeux retraité, puisque vous avez publié environ une vingtaine de bouquins sur, peut-on dire que c'est votre grande idée dans votre vie, c'est la stratégie. Alors, général, vous avez publié aussi un article, entre bien d'autres choses que nous allons évoquer, sur la France libre, sur la revue de la France libre. Est-ce que ces deux mots, France et libre, ne sont pas les deux mots qui vous définissent ?
Effectivement, il faut se placer dans le contexte de 1940, où j'ai assisté en témoin effondré à la destruction de mon pays, à son invasion par les Allemands, et à l'occupation de la France. On ne peut pas savoir quel a été le désastre que cela a représenté. Je vous donne un exemple, c'est que, ayant obtenu une affectation combattante en Tunisie contre les Italiens, je rejoins la base de Tébessa, où se trouvait le commandant supérieur de l'air en Afrique du Nord, pour qu'il nous désigne une escadrille. Et ce brave homme, qui avait général Pénès, qui est un homme corpulent, relativement âgé, 5 étoiles sur les bras. Je rentre dans son bureau, introduit par son aide de camp, et à ma grande stupéfaction, je reste interdit sur le pas de la porte, il sanglotait. Alors, je ne dis rien, et lui m'interpelle, et me dit, vous avez entendu la radio ? Non, mon général, j'étais en vol.
Vous étiez aviateur, faut préciser, oui.
Oui, oui. Et j'ai piloté un avion qui était ainsi le même que celui de Saint-Ex, utilisé Saint-Ex. Vous n'avez pas entendu la radio ? J'ai dit non. Eh bien, c'est le cessez-le-feu. Le maréchal a décidé le cessez-le-feu. C'est le 17 juin 40. Vous savez ce que c'est que le cessez-le-feu ? Il ne répond pas. Le cessez-le-feu, c'est la défaite. Et ressanglot. Alors, c'était très impressionnant pour moi. Et il me dit, vous voulez continuer ? Mais vous avez bien fait, parce que moi, je n'accepte pas la défaite et on continuera en Italie, contre la guerre en Italie. Alors, vous allez aller à Ain Beida avec votre avion. Et là, on est en train de former un groupe de bombardement pour bombarder l'Italie. Ils vous trouveront bien une place. Allez, continuez. Bon, je vous dis cette anecdote parce qu'elle est significative. Que cet homme qui avait déjà plus d'une soixantaine d'années sanglotait comme un enfant.
Et donc vous êtes rentré très vite dans la France libre vous-même.
Bon, alors à ce moment-là, j'ai été affecté à Marrakech un peu plus tard. Et là, naturellement, je ne peux plus rester tranquille. Je me suis mis à faire une série de conférences contre l'Allemagne, très violentes. À l'issue de ces conférences, un certain nombre de sous-officiers et d'officiers qui étaient à la salle ont manifesté en criant « Ville de Gaulle, à bas l'Allemagne, etc. etc. » Si bien que ça a fait un petit scandale et qu'un de mes camarades de l'armée de l'air, que j'appréciais d'ailleurs, mais dont je ne connaissais pas les activités, est allé me dénoncer à la commission d'armistice allemande. Il était, disait-on, à l'époque, officier des menées antinationales. Et je faisais une menée antinationale. Alors les Allemands ont demandé mon transfert. Il y a eu des débats, finalement. Comme le colonel avait approuvé mes conférences, il m'a couvert le plus possible. Mais j'étais obligé de quitter Marrakech et d'aller me constituer prisonnier à Vichy. Là, j'ai obtenu la permission. D'abord, j'ai eu 90 jours d'arrêt de forteresse. Et ensuite, j'ai eu la permission d'aller déménager. Et je suis retourné à Marrakech chercher mes affaires. Et là, le consul des États-Unis, Kenneth Penda, m'a invité à déjeuner Elle m'a dit, ne partez pas. J'ai dit, comment allez-vous, je ne parte pas. Je suis contrôlé par la police. Mes places sont prises sur le bateau. Je suis obligé de partir. Ne partez pas. Et après, ça, il connaissait. C'est le courant du futur débarquement, mais pas moi. On va arranger ça. Et on m'a fait passer pour malade. Évidemment, j'avais servi au Sahara longtemps. Alors, paludisme, bon, ça a marché. Et j'ai gagné comme ça 3 mois. Les Américains sont arrivés. À ce moment-là, tout a changé. Du paria que j'étais, je suis devenu un personnage important et chargé de liaisons avec l'armée américaine. Et grâce à elle, j'ai pu partir en Angleterre et donc rejoindre la France libre. Alors là, j'ai trouvé une équipe extraordinaire, par hasard d'ailleurs. Nous avions à l'escadrille 6 jours de permission, toutes les six semaines. On est passé à Londres, parce que comme nous volions de nuit, sur la base, il y avait un boucan épouvantable, on ne pouvait pas dormir. Et dans la journée, je ne savais pas trop quoi faire, assez démuni financièrement, j'allais à la bibliothèque, et j'étais en train de lire à cette bibliothèque, lorsque un bonhomme, très agité, civil, m'interpelle en français, c'était André Lavarthe, qui me dit « Ah, qu'est-ce que vous faites ici ?»
Pour rappeler un peu qui était André Labarthe.
Alors,
quand même,
André Labarthe était
un
personnage très étrange qui avait dirigé le CNRS en France et qui avait rejoint l'Angleterre en 1940. Et que de Gaulle avait chargé de toutes les affaires scientifiques de son para-gouvernement, si je puis dire.
Parce que la bande de l'époque était pas mal. Il y avait aussi Raymond Aron qui va devenir votre grand rival. Oui.
Alors, il me dit, vous devriez se joindre à nous et publier ce que vous faites, c'est très intéressant, d'autant plus que nous parachutons notre revue en France, et il est intéressant que les Français sachent ce que d'autres Français font. D'ailleurs, j'ai ici toute la collection des revues, y compris les petits fascicules parachutés. J'ai donc la permission suivante, j'ai pris connaissance avec eux, et là j'ai découvert une équipe extraordinaire. D'abord André Labarthe lui-même, ensuite Raymond Aron, qui était rédacteur en chef de la revue. Ensuite, une équipe d'étrangers, farouchement anti-allemands, devenus anti-communistes, mais l'ayant été. Alors, il y avait par exemple la baronesse Boutberg.
Ah oui, ça c'est une drôle de bonne femme. Elle avait eu des amants extraordinaires, non?
Alors oui, elle avait eu Gorky.
Oui, voilà, oui.
Et elle avait vécu avec Bruce Lockhart, qui était aussi un agent double britannique. Et puis, on lui prêtait d'autres personnages importants, comme Bernard Shaw, par exemple.
Elle était éclectique.
Et G.H. Wells aussi.
Ah, oui.
Elle était une femme extraordinaire, parlant un peu toutes les langues, mal, mais capable de lire mes articles et de les corriger en bien.
Oui, vous disiez à un moment donné qu'il valait mieux l'affronter le matin que le soir parce qu'elle avait des bouteilles de gin et de vodka sur elle.
Elle avait toujours un sac en bandoulière avec 2 bouteilles de gin, et à partir de 3 heures d'après-midi, il n'était pas fréquentable. Bon, il y avait un deuxième personnage extraordinaire qui était Simonchek. C'était un officier polonais de grande culture technique qui avait été communiste, qui avait fait le coup de feu contre le régime de Weimar, et qui s'en était tiré miraculeusement, qui était un communiste gradé, si je puis dire, mais qui avait tourné kazakh et qui était devenu anticommuniste. Alors lui, c'était un homme étonnant, d'abord de gentillesse, de culture, et amusant. Par exemple, nous promenions dans Londres lors de mes permissions, et dans une poche, il avait des saucisses, et dans l'autre poche, des concombres. Et à un carrefour, on s'arrêtait, il s'est passé les voitures, il me tendait une saucisse et il me disait « Tiens, petit con, mange !» Et puis il me parlait de Clausewitz, entre-temps.
Oui, alors vous dites sur lui quelque chose, c'est que ça me fait plaisir. Vous citez d'ailleurs mon cher Thucydide, vous dites que, donc il s'appelle Staro, je crois, enfin on le surnomme Staro, en abrégé, et vous dites que son œuvre est considérable et qu'elle le situe dans la lignée des grands commentateurs militaires de Thucydide, merci mon cher Thucydide, à Delbrück, en passant par César, Végès, Villehardouin et Maurice de Saxe. Alors ça, c'est déjà votre fascination pour la stratégie.
Oui, et il y compte pour beaucoup. Il connaissait d'ailleurs Clausewitz par cœur, Delbrück, enfin, tous les grands stratèges allemands. Il étudiait toute la presse allemande qui nous parvenait par la Suisse. Et il rédigeait des textes qui étaient tellement intelligents que le ministère britannique de la Défense les utilisait pour la conduite des opérations réelles.
Mais alors, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, tous ces grands stratèges peuvent encore marcher, si j'ose dire? Parce que vous avez l'air vous-même, dans vos travaux, dans vos recherches, dans vos bouquins, de dire que le monde a radicalement changé, qu'il y a eu un changement, un fossé entre le monde d'hier et d'aujourd'hui, aussi là-dessus, à un moment donné.
Oui, mais naturellement, nous allons en parler, si vous voulez, tout à l'heure. Le monde est complètement changé. Il est caractérisé, à mon avis, actuellement, par trois facteurs. Le premier, que l'on n'évoque pas assez, alors qu'il est déterminant, c'est le fait que des peuples comme la Chine et l'Inde, milliardaires en vie humaine, se sont mis au travail à l'européenne, c'est-à-dire s'industrialisent comme nous l'avons fait, ce qui est une force de travail de l'ordre du milliard d'individus et qui est capable de travailler considérablement, un travail de masse qui est maintenant de qualité, avec des salaires qui sont le quart, le dixième des nôtres. Et comme par naïveté, nous avons voulu capter le marché chinois et le marché indien, c'est le cas des États-Unis en particulier, nous avons ouvert toutes les frontières, supprimé toute notion de protectionnisme, et en échange, nous sommes à la merci de la production de ces peuples. Et par conséquent, comme ils produisent en masse des biens d'équipement à des prix très très inférieurs aux nôtres, peu à peu, notre propre industrie se stérilise. Elle n'a plus de marché. Donc, c'est un phénomène gigantesque dont on voit les caractéristiques les plus spectaculaires avec, par exemple, le drame de l'automobile aux États-Unis actuellement, qui s'étend actuellement à l'Europe, évidemment.
Et ça, c'est vrai, c'est radicalement nouveau depuis Thucydide même, depuis l'éternité.
Par exemple, l'Inde a décidé de lancer par centaines de milliers la fabrication d'une voiture à 2000 euros. Comment voulez-vous que dans l'avenir, nous puissions résister à des prix pareils? Le problème, c'est que le choix est pour nous entre la faillite, parce que nous ne pouvons pas vendre, ou bien baisser les salaires au point de créer des sentiments de révolte et de ce que le monde occidental, qui au cours du 19e et du 20e siècle s'est orienté vers la production de richesses et avec des salaires de plus en plus élevés, tout d'un coup, c'est un coup d'arrêt brutal à toute une civilisation.
Alors, quel est le deuxième facteur? Oui, ça, c'est donc le facteur économique, disons. Alors,
la deuxième caractéristique de cette période, qui en engendre une troisième d'ailleurs, c'est la raréfaction du pétrole et du gaz, avec l'accroissement du prix, et par conséquent, en ce qui nous concerne en particulier, des coûts mortels portés à notre propre production, à notre propre industrie, en raison de la valeur de cette énergie que nous avons tenue pendant un siècle et demi pour absolument indispensable. Mais la seconde caractéristique, c'est que, devenant rare, c'est une denrée qui augmente de valeur tous les jours, si bien que les pays producteurs accumulent des sommes considérables qui bouleversent toute l'économie mondiale. Et un des corollaires, c'est de voir, par exemple, des petits pays comme Abu Dhabi, comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et autres, Dubaï, se transformer comme nous l'avons fait, mais grâce à cet argent, en s'industrialisant et en cherchant des activités qui remplaceront la rente pétrolière qui va disparaître. Et ce faisant, ils contribuent à notre ruine aussi. puisqu'ils vont mettre à produire en concurrence avec ce que nous faisons.
Est-ce qu'on peut dire que la France est encore libre, que ce pourquoi vous avez combattu finalement, il reste quelque chose de cet esprit qu'il faut combattre et qu'on peut combattre?
C'est-à-dire, quand nous avions un ennemi séculaire, l'Allemagne, depuis 1870, pas oublier que l'Allemagne nous a collé la dépêche d'Ems et la défaite de 70, ensuite 14-18, avec 1,4 million de morts, ensuite 39-45, et qu'elle a au fond déclenché une guerre mondiale qui a fait 200 millions de victimes et une centaine de millions de morts. Bon. Cette Allemagne est là où elle est, et elle est là pour rester, elle est notre voisine, et nous sommes obligés de faire avec. Et la grande difficulté, c'est de faire face à ce gigantesque bellicisme qui est inné chez eux. Ils sont les auteurs de deux guerres mondiales. Ils sont même d'ailleurs responsables avec la Shoah et les crimes qu'ils ont commis contre les populations dites mineures pour eux. Ils sont responsables pour une part des événements du Moyen-Orient. Car si il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y avait pas eu l'extermination des Juifs, les Nations Unies auraient exigé d'Israël qu'il applique les résolutions de 142 et 348 sur l'évacuation des territoires occupés.
Donc pour vous, le vieil ennemi...
En raison oui. du drame, oui. on a passé l'éponge. Et le résultat, c'est une situation maintenant entre Palestiniens et Israéliens qui est absolument non réglable. L'Allemagne en est indirectement responsable.
Donc pour vous, le vieil ennemi est toujours l'ennemi, parce que vous en parlez même dans les Balkans, puisque c'est l'Allemagne aussi l'histoire des Balkans maintenant.
C'est également l'Allemagne qui a fomenté toute l'affaire des Balkans.
Enfin oui, au départ, c'est eux qui ont fait la première sécession de la Yougoslavie.
L'idée allemande était évidemment de faire d'émietter la Yougoslavie de manière à faciliter son rêve d'une Europe des provinces, dans lequel elle, invoquant l'unité de sa langue, resterait unie, mais dans laquelle les autres pays seraient fractionnés en fonction de leur parler. Alors il y aurait la France perdrait l'Occitanie, elle perdrait la Savoie, elle perdrait la Bretagne, les États-Unis perdraient le Pays de Galles et l'Écosse, par exemple.
Donc selon vous, l'Europe au fond se fait pas parce qu'il y a l'Allemagne. Oui, ne se fait pas à la mode française, bien sûr.
Elle ne peut pas se faire comme les Français la rêvent, à cause d'ailleurs de la présence de l'Allemagne et de ses ambitions.
Nous allons arrêter quelques minutes, Général, et nous reprenons dans quelques minutes. C'est le Général Gallois avec Elisabeth Antebi.
Révisez vos connaissances sur Canal Académie avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Académie.
Rebonjour, c'est toujours Elisabeth Antebi qui reçoit le général Gallois. L'homme de la dissuasion nucléaire du général de Gaulle, d'ailleurs on va dire ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus très bien ce que c'est, qui est aussi, nous ne l'avons pas dit, un peintre en trompe-l'œil, et nous en parlerons peut-être à la fin. Alors, Pierre-Marie Gallois, vous êtes né à Turin. Alors, pourquoi Turin?
Eh bien, parce que mes parents donc allaient prendre les eaux, comme on disait à l'époque, à période d'été en Suisse. Ils partaient d'Alexandrie, faisaient escale à Naples, prenait le chemin de fer pour remonter sur la Suisse. Et je suis né à Turin sur le cours du voyage, probablement avec un jour d'avance. D'où le fait que je suis turinois. Et qu'à l'origine, au début de ma vie, ayant eu une nounou italienne pendant très longtemps, je ne parlais que franc-italien, je ne savais pas parler français même.
Et pourquoi vivait-il à Alexandrie?
Parce que mon grand-père est parti, il était élève de centrale, il est parti comme jeune ingénieur. Il a fait partie de l'équipe de l'ESEPS qui allait creuser le canal. Il est resté en Égypte. Il est devenu directeur des eaux et dans ces pays, puis ministre de l'Intérieur, du Travaux publics, pardon. Et il est mort en Égypte. Et avant d'être dégommée par les Britanniques à partir de 1904, où en effet la France a fait un échange en disant aux Britanniques « La route des Indes vous tente, je vous donne l'Égypte où je suis présent, et en échange, vous me laissez les mains libres au Maroc. » Et dans cet échange, nous avons perdu la position éminente qu'il avait. Et nous avons gardé d'ailleurs des terrains, des champs de roses, entre Alexandrie et le Caire, qui ont été confisqués par Nasser en 56.
Vous n'avez gardé que les épines. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours à un grand moment de l'histoire, c'est-à-dire que vos parents étaient quand même au moment de Suez. Vous-même, dans votre toute jeunesse, au fond, puisque vous êtes, je le rappelle, né en 1911, vous avez vécu tout enfant la fin de la guerre de 14, enfin, la guerre de 14 elle-même, mais surtout la fin, puisque vous avez grandi à ce moment-là. Vous avez eu le début de l'aviation naissante et née sous vos yeux, non? Et c'est comme ça que vous êtes entré chez Dassault. Enfin, là, je raccourcis beaucoup les choses.
Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté donc à la fin de la guerre et que l'aviation avait commencé à naître et à prendre une place importante, qu'un garçon de 7, 8, 10 ans était passionné, et que, très intelligemment, le gouvernement de l'époque, après la démobilisation, s'est dit qu'il y avait un moyen d'occuper les milliers de personnes qui gravitaient dans l'aviation, pas seulement les pilotes, mais les mécaniciens, mais les techniciens, en les dirigeant vers le défrichement de l'Afrique. D'où le défrichement des lignes aériennes africaines. Africaine et jusqu'à Saïgon d'ailleurs, jusqu'à l'Extrême-Orient. Il se trouve que ma sœur a épousé un capitaine d'aviation, lequel, avec comme camarade Pelletier-Loisy, des frères Achard, Rignot, des aviateurs qui sont devenus par la suite célèbres, et que je regardais avec l'admiration que vous devinez. J'avais 8, 10, 12, 15, 15 ans, et je n'avais qu'une idée, c'était d'être capable de faire comme eux. Mon premier vol a été fait à l'initiative de mon beau-frère, donc, qui m'a fait voler sur un avion au Bourget où il commandait une escadrille, sur un Breguet 19, je me rappelle, c'était en 1927, donc j'avais 16 ans. Et en descendant d'avion, je me suis dit, ça c'est, il faut continuer.
Bon. Et vous avez donc continué en faisant partie de toute l'histoire de l'épopée d'assaut, au fond.
Alors, beaucoup plus loin.
Oui, bien sûr.
Sous une autre forme.
Oui.
Ensuite, je suis rentré dans ce milieu ainsi. Mais c'est en 34 que, lors de la nuit des longs couteaux, lorsque Hitler a fait assassiner les SA par les SS, qu'on a découvert ici ce qu'était le nazisme. On n'avait pas d'idée. Et c'est ma mère qui m'a dit, alors que j'étais à cette époque élève aux Beaux-Arts et que je voulais devenir architecte, j'étais grouillot, je travaillais chez un architecte, chez un autre, en faisant des rendus, comme on dit, plus ou moins heureux. Et c'était ma mère qui m'a réveillé un soir de Bamboula. C'était le bal des Khazars, en me disant, ça suffit, ton père est mort en 1915, la guerre est pour demain, il n'y a qu'à voir ce que font les Allemands, il faut t'engager. Comme j'étais pilote civil, j'avais passé le bon brevet de pilote civil, je suis présenté au filet militaire et ils m'ont embauché. J'avais quelques heures, centaines d'heures de vol d'ailleurs à l'époque. Et j'ai demandé l'Afrique. Et j'ai eu un poste très intéressant, d'abord à Blida, mais surtout à Colombéchard, où je suis resté près de 3 ans, avec une mission qui était de ravitailler les convois, ravitailler les caravanes, leur projeter des kilos et des kilos de vitamine C sous forme d'oignons et de légumes et de poires et de
fruits. Oh, bizarrement, ce n'est pas à cette époque, ce n'est même pas quand vous êtes allé à Londres, je crois que vous avez connu le général de Gaulle. C'est bien après même.
Bien oui, bien après, puisque je suis parti à Londres lorsque les Américains ont pu débarquer.
Oui, ça vous l'avez dit, oui.
En Afrique du Nord, en novembre 1942.
Oui.
Et je suis passé en Angleterre, et là, je suis présenté à l'état-major de Londres, et on m'a embauché dans le bombardier lourd.
Vous avez connu Clostermann à ce moment-là.
Ah, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Je l'ai bien connu. C'était un homme merveilleux. Et les circonstances ont voulu d'ailleurs qu'il soit sous mes ordres. Parce qu'à la fin de la guerre, j'ai été nommé à l'état-major de Londres, chargé de l'information et de la presse. Et on m'a donné comme adjoint Clostermann. Dans l'armée anglaise, Clostermann était lieutenant-colonel. Mais dans l'armée française, il était sous-lieutenant. Or, comme moi, j'étais capitaine, il était en train, en principe, sous mes ordres. Je lui disais mon colonel, mais il devait théoriquement m'obéir. En fait, c'était un homme tellement généreux, tellement intelligent, que l'entente était parfaite et que j'avais pour lui une profonde admiration.
Donc, après la guerre, comment avez-vous connu De Gaulle ?
Eh bien, c'est très intéressant ce qu'ils ont proposé parce qu'elle ouvre un chapitre peu connu. En février 1956, j'avais été affecté en 1953, après 3 ans de travail à l'OTAN, où j'étais chargé des plans stratégiques à long terme, avec l'introduction du facteur nucléaire dans une éventuelle guerre, j'avais fait poser la question à mes chefs, qui étaient le maréchal Montgomery, d'une part, et le général Norstad, d'autre part, qui allait devenir commandant suprême. Et la question était la suivante. Nous venons d'engager les États-Unis à défendre l'Europe avec l'atome. Ils peuvent le faire d'autant plus aisément qu'ils sont hors d'atteinte, eux. Mais que se passera-t-il lorsqu'avec l'évolution de la technique, ils seront en première ligne, comme nous le sommes? Est-ce qu'ils tiendront toujours leur engagement? Et Norstad m'a dit, c'est une bonne question, préparez-nous un amphi là-dessus. Alors je me suis mis au travail, j'ai fait un amphi, j'ai préparé des tableaux que j'ai encore ici, où je comparais le risque que l'Amérique prenait à défendre l'Europe avec la valeur que l'Europe présentait à ses yeux, le tout en fonction de l'évolution de la technique. Et c'est à l'issue de cette présentation que le général Norstad m'a dit « Vous devriez prévenir votre gouvernement. » Bon, je lui ai dit « C'est mon gouvernement, a sur les bras l'affaire algérienne, il n'a pas le temps de s'occuper de cette question. Comme vous savez, je prévois ce changement de stratégie à l'avantage des Russes en 1960, dans 4 ans, le gouvernement s'intéresse à des choses plus immédiates. Vous avez tort, mais c'est votre devoir de parler à votre gouvernement. Bien. Alors, comme je connaissais Chaban-Delmas, ami de famille depuis longtemps, je lui ai dit, les Amerlocs voudraient que je voie le président du Conseil. Chaban-Delmas a organisé un entretien. Cet entretien a eu lieu en mars, 14 mars. 56, à Matignon, la nuit. Il a été très amusant, parce que je suis arrivé avec mes tableaux, j'ai fait mon tilaus pour prouver que nous devions un jour arriver à nous défendre nous-mêmes. Et Guy Mollet me dit, si je comprends bien, mon colonel, vous voulez que je fasse la bombe atomique? Oui, monsieur le président. Enfin, tout de même, je viens de faire ma campagne électorale sur 3 points. La paix en Algérie, la réduction des impôts, et le désarmement. Or, je fais la guerre en Algérie, je ne réduis pas les impôts pour la faire, et voudriez en plus que je fasse la bombe. Je m'enhardis, je dis, mais monsieur le président, vous avez trompé les Français sur 2 points d'ordre conjoncturel, mais moi, c'est une question structurelle, il s'agit de l'avenir du pays, et sa sécurité, c'est beaucoup plus important. Ils sont trompés sur 2 points, ou bien, vous pourriez bien les tromper sur 1/3. « Comme vous y allez, me dit-il, on voit que c'est pas vous qui allez devant l'électeur. »« Mais monsieur le Président, d'après ce que vous me dites, votre carrière politique est déjà compromise. » Piaf, à ce moment-là, Chaban-Delmas, qui était présent, avec sa fougue habituelle, intervient. « Oui, Gallo a raison, nous faisons des études sur le nucléaire, clandestines. Nous devons le dire au peuple, ça suffit, il est temps de l'avoir avec nous. » C'est le moment d'y aller, Gallo a raison. Et finalement, vers 2 heures du matin, Guy Mollet a cédé. Eh bien, me dit-il, nous dit-il, on va la faire, votre sacrée bombe. Et il appelle à un aide de camp, à 2 heures du matin. On téléphone à Borges-Monoury, on le réveille, qui était mis à la défense, et on lui dit, tu vas recevoir Gallo tout de suite, il a te parlé au sujet d'une affaire importante. Rendez-vous est pris pour 10 heures plus tard, à 10 heures du matin, 11 heures du matin, au ministère de la Défense. Je m'y rends, Borges m'accueille, les bras ouverts, et me dit « Je sais pourquoi vous venez, je suis acquis à l'idée, le général Aéré est mon conseiller, il est passé par là, il fait la même campagne que vous, c'est pas la peine de recommencer votre exposé, mais préparez-moi un exposé, car tout le monde autour de moi n'est pas convaincu. On fera une sorte de grand comité de défense avec les cadres du ministère et vous essayerez de les convaincre. Ce que j'ai fait en juillet 1956.
Et de Gaulle alors ?
Alors, il y avait les trois secrétaires d'État, il y avait les trois chefs d'État-major, et puis un représentant de l'intérieur, des affaires étrangères, etc. Et à l'issue de l'entretien, qui a duré tout l'après-midi, il y a eu beaucoup de questions, j'ai répondu. Et puis un de mes camarades, qui était plus ancien que moi, il était général, moi j'étais colonel à l'époque, s'approche de moi et me dit « Dis donc, les Amerlocs t'ont intoxiqué avec l'atome. Tu ne te rends pas compte qu'avec ton armement là que tu nous proposes, ça va réduire les effectifs. C'est plus 400 bombardiers dont on a besoin, mais 40. 4 peuvent suffire. Et tu sais bien que l'avancement est proportionnel au nombre. Tu ne passeras jamais général. » C'était le général Jouot qui allait s'illustrer après avec l'affaire algérienne. Voilà. Et alors, le lendemain, j'ai rendu compte au général Norstad qui m'a dit « Vous devriez voir de Gaulle. » J'ai dit « Le général ne reviendra jamais au pouvoir. Puis c'est l'homme des chars. Il n'a pas la mentalité nouvelle nécessaire pour saisir la gigantesque rupture que l'atome a introduite dans la stratégie. On perd notre temps. » « Non, me dit Norstad, j'ai lu la traduction de ses ouvrages. C'est un homme d'un grand esprit et vous devriez le mettre au courant. » Alors, j'avais un ami commun avec le général de Gaulle qui était président de la société Messier, qui finançait d'ailleurs le RPR d'époque, le mouvement de l'époque. Je m'en ouvre à lui qui me dit « Je vais arranger ça. » Et j'ai obtenu un entretien avec le général de Gaulle à l'hôtel La Pérouse, Raphaël, reçu fort courtoisement. J'ai étalé mes tableaux sur des fauteuils. Il m'a laissé parler pendant presque une heure. Ensuite, il a parti sur un très long monologue où, à ma grande surprise, il reprenait nos idées, les amplifiait et leur donnait une ampleur que nous n'avons pas été capables de leur donner. Et ensuite, il a posé beaucoup de questions. Et vers 3 heures du matin, peut-être, il m'a dit royalement, « Gallois, il est tard, allez reposer. » Et comme mes tableaux cartonnés étaient lourds, il m'a aidé à les transporter dans l'ascenseur. Et comme il était plus grand que moi, c'est lui qui a ouvert le soufflet. J'ai rentré mes dossiers et puis il m'a serré la main en me disant, « Je veillerai sur votre carrière. » J'ai réveillé Françoise et je lui ai dit, « Je quitte U14 et nous sommes inscrits sur sa cassette particulière. »
Bon, mais alors donc, vous êtes l'homme, comme on le dit, de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'en gros, et pour dire ça en deux mots, à l'époque, c'était l'équilibre de la terreur, selon vous, c'est-à-dire que si chacun avait la bombe atomique, personne n'allait l'utiliser.
Non, l'idée était différente.
Ah, pardon. Oui.
L'idée était différente. Bon, j'étais à Londres au moment d'Hiroshima.
Oui.
Je ne savais pas qu'Hiroshima pouvait exister. J'ai été bouleversé. Et j'ai fait d'ailleurs dans la revue La France Libre, dès octobre 1945, un article, peut-être le premier, sur la bombe atomique. Je constatais, comme tout le monde pouvait le faire d'ailleurs, mais je constatais qu'un avion, les 10 hommes qui le montaient, une bombe, venaient de mettre un terme à une guerre de 6 ans, 5 ans et demi, au cours de laquelle les hommes s'étaient affrontés par dizaines de millions, utilisant des chars et des canons par centaines de milliers, et des avions par dizaines de milliers, des bateaux de guerre par milliers. Et il suffisait de 10 hommes pour mettre un terme immédiat à cette guerre. Et ma réaction de cette époque a été de dire « Mais voilà la solution pour mon pays. Jamais il ne pourra jouer un rôle. » Quand je connaissais le gigantisme soviétique, le gigantisme militaire américain et même à l'époque britannique, que je comparais aux moyens français, nous n'étions pas dans le coup, c'était fini. En revanche, disais-je, on pourra toujours se payer 10 avions, 10 bombes et sacrifier une dizaine de bons hommes pour lâcher la bombe, les bombes, et par conséquent créer un risque assez intimidant pour qu'on nous foute la paix. C'était aussi simple que ça. Et ça, j'ai commencé ma campagne dès 1945.
Et ça a marché pendant longtemps, puisque l'équilibre de la terreur a marché même entre l'Amérique et la Russie.
Ça continue.
Alors justement, je voulais vous demander si ça continuait. Parce qu'aujourd'hui, que tout le monde piaille sur la bombe iranienne, est-ce qu'en effet, je ne parle pas seulement de l'Iran, mais est-ce qu'il n'y a pas un dictateur fou qui puisse le faire?
Non, ce n'est pas ça.
Parce que rappelez-vous, Heisenberg raconte comment les Allemands connaissaient le secret de la bombe atomique finalement, mais ne l'ont jamais livré, n'ont jamais commencé des travaux à cause d'Hitler. Ils avaient conscience qu'ils le donnaient à Hitler.
Non, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils étaient trop tôt.
Oui.
Ils voulaient des résultats plus immédiats. Ils redoutaient que les travaux sur la bombe ne fassent diversion et ne durent longtemps en privant l'Allemagne bons esprits.
Oui. Mais aujourd'hui, donc avec l'Iran et les autres.
Aujourd'hui, depuis quelque temps, la bombe est contournée par le troisième phénomène qui s'ajoute aux deux premiers que je vais signaler et qui est, à mon avis, comment dirais-je, la réaction au matérialisme. Cette réaction au matérialisme de la mondialisation conduit à la priorité des systèmes des religieux, ethniques. Et par conséquent, par le terrorisme, on contourne la bombe atomique, c'est-à-dire qu'on la neutralise. L'Amérique, première puissance nucléaire du monde, a quand même subi le 9 septembre. Donc, il y a un moyen de contourner. Mais pour ça, il faut sacrifier des vies humaines et faire en sorte que l'individu soit lui-même un explosif, si je puis dire. Et cette réaction, elle est relativement récente. Elle remonte, si vous voulez, à mon avis, aux années 70-73, c'est-à-dire à l'époque où les Occidentaux, avides de pétrole, ont commencé à se rendre, aux yeux des producteurs de pétrole, un peu des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils ont négocié le pétrole dont ils avaient besoin avec menace. Et là, on a enclenché tout un processus qui vient de monter une partie du monde contre l'autre partie du monde.
Oui, mais est-ce que donc l'atome ne s'ajoute pas aux bombes humaines? Parce que, mon Dieu, il y a les bombes humaines, c'est vrai. Bien sûr, c'est encore une autre forme de guerre. Mais l'atome, en plus, peut aussi faire des ravages.
L'atome n'a plus, à mon avis, que deux formes d'efficacité. La première, c'est d'interdire que l'on s'en prenne à ce qui est vital chez un peuple nucléaire. Et la seconde, c'est un brevet de technicité qui le classe parmi les nations scientifiquement avancées. Mais face au terrorisme, cette bombe est contournée.
Alors, vous dites que jamais autant qu'auparavant, les dés n'ont été aussi pipés. D'ailleurs, Volkov le disait avec la désinformation. Et dans des livres un peu explosifs, parce que vous-même, vous êtes le comble de la pensée non correcte, vous êtes à la fois, vous paraissez dans l'Humanité, j'ai découvert un article où l'Humanité vous encense, le journal de l'Humanité, parce que vous dites, à un moment donné, la guerre est une stupidité monstrueuse, je sais de quoi je parle, je l'ai faite. Et que vous dites, il y a donc aujourd'hui des choses qu'un gouvernement ne peut plus faire car la population ne le supporte plus. Cessons les cocoricots, tout cela milite en faveur de la neutralité de notre pays. Alors, est-ce que ça ne va pas dans le sens de ce qui se passe et qui a l'air de faire très peur à l'armée aujourd'hui? Et il y a le chef des armées, général Georgelin, qui vous rend tout récemment hommage en disant que vous êtes l'un des rares stratèges français à avoir toujours vu clair. Donc, je vous demande donc votre avis d'expert, c'est-à-dire, est-ce qu'on a pris le bon tournant? Est-ce qu'en effet, les armées vont être dévolues à autre chose? Est-ce que nous sommes encore à la veille d'un grand changement, finalement, stratégique, d'un profond changement stratégique?
Oui, nous le sommes parce que le monde est maintenant divisé en deux, comme il l'a été du temps de l'opposition entre l'économie de marché et l'économie planifiée, du temps de l'OTAN, par exemple.
Et de la guerre froide, quoi, ce qu'on appelle.
Il y a une division entre les deux blocs.
Oui.
Eh bien, maintenant, il y a une deuxième division qui est créée justement, par les intérêts des peuples milliardaires en vie humaine et les intérêts des vieilles, des pays anciennement industrialisés comme nous, qui sont forcément conservateurs et veulent conserver les avantages qu'ils ont acquis au cours des deux siècles derniers, avantages qui ne peuvent pas résister à la capacité de production de ces peuples milliardaires. Donc il y a un vaste mouvement qui est plus ou moins inspiré, je suppose, par quelques stratèges chinois ou indiens, je ne sais pas, et qui consiste à vulgariser l'atome de manière à ce qu'il soit l'instrument des indépendances nationales chez nous et par conséquent de l'émiettement de l'ordre américain. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le professeur Khan, par exemple. Il est pakistanais, qui a aidé la Corée du Nord, il a aidé probablement oui. L'Inde, le Pakistan, il a voulu aider la Libye, il a voulu proposer ses services à l'Arabie Saoudite. Il essaye de répartir cet armement. Les Chinois, sachant très bien que c'est l'instrument de l'indépendance nationale. Image de Gaulle, par exemple.
Mais alors, vous êtes retourné, si on peut dire. Ça, on va le voir dans une dernière partie. On va un tout petit peu faire une toute petite pause. Mais on va parler juste après de l'Amérique, qui finalement, l'Amérique du général Norstad, qui est devenue tout à fait autre chose pour vous et qui, avec l'évolution des choses, est devenue... sinon l'ennemi, du moins celui qui suscite le plus d'ennuis à l'Europe, et d'ennuis que nous ne voyons pas. Apparemment, l'Europe est aveugle. Mais nous allons arrêter deux minutes et reprendre avec le général Gallois.
Vous écoutez Canal Académie.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.
Rebonjour, nous sommes toujours avec le général Gallois, ici Elisabeth Antemi, qui fait un parcours avec le général Gallois. J'ai dit qu'il avait une pensée infiniment incorrecte et Dieu nous en bénisse. Donc l'humanité l'encense, mais il parle aussi à Radio Courtoisie. Là, on lui donne une tribune. Et ces derniers temps, il a beaucoup sidéré certaines personnes en parlant de l'Amérique et en racontant au fond ce que vous appelez la théorie de l'ennemi utile. L'Amérique désigne toujours un ennemi qu'il n'abat pas depuis l'Union soviétique, c'est-à-dire il est en mesure de l'abattre, et puis il ne l'abat pas parce que cet ennemi est très utile finalement. Alors vous dites que ça a été le cas de l'Union soviétique, vous dites que c'est maintenant le cas de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu cela ?
Eh bien, les États-Unis se sont, à mon avis, montrés sous un jour déplaisant qui a détruit, dans une grande mesure, l'audience ou même parfois l'admiration qu'ils pouvaient inspirer dans le monde par leur système social, politique, économique, et la liberté de penser, etc. Et ceci est leur avidité compréhensible à détenir des sources d'énergie suffisantes. Les États-Unis ont constaté que il y a maintenant une dizaine d'années, qu'ils consommaient près de 15 ou 18 millions de barils de pétrole jour, qui finiraient par en consommer presque le double, qui n'en produiraient eux-mêmes que 5 ou 6 millions, et qu'il était inadmissible que la première puissance du monde soit obligée de quémander à l'extérieur l'énergie indispensable au développement de ce propre pays.
Ça, on l'a au fond bien compris.
Ça a commencé, si vous voulez, avec l'idée d'abord de s'associer étroitement à l'Arabie Saoudite et à en faire, bien qu'éloignée, une sorte de colonie qui fournirait à coup sûr le pétrole nécessaire. Mais l'autre idée a été de donner à l'Arabie Saoudite, au fond, le quota pétrolier de l'Irak que les Américains jalousaient, puisque il était plutôt sous contrôle russe et français, et pas américain. Ensuite, c'était un pays qui jouait à la laïcité, donc mal vu par le reste de l'islam. Et les Américains ont pensé que ce serait un bon tour que d'affecter à l'Arabie saoudite les richesses énergétiques de l'Irak. Ça a été la première campagne irakienne. Mais ils ont oublié qu'en déployant des troupes en Arabie saoudite, des troupes de tous les pays, près de 200 000 hommes, ils ont heurté les sentiments religieux, éthiques de ces peuples, si bien que c'est en Arabie saoudite qu'ont été recrutés des terroristes anti-américains. Il y a eu pas mal d'attentats ainsi fomentés. Il y en a eu à Dahran, il y en a eu d'ailleurs le premier World Trade Center en 1993, il y en a eu à Dahran, il y en a eu sur les ambassades d'Afrique du Sud, il y en a eu sur un croiseur, le Cole, au Yémen. Et parmi les suspects ou parmi les personnes interrogées, il y avait beaucoup de citoyens d'Arabie saoudite.
Vous dites à un moment donné très justement qu'ils se sont attaqués à l'Irak aussi et à l'Égypte d'une certaine manière parce que on veut de la mémoire faire table rase. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une convergence entre les intérêts mercantiles et les intérêts jadis marxistes qui voulaient de la mémoire faire table rase, puisque vous le dites assez justement, l'Irak d'Hussein, Hussein voulait raviver la grande Mésopotamie de jadis, l'Égypte voulait raviver, bien sûr, les pyramides, le sphinx et le reste. Et vous dites, c'est d'une manière très intéressante, que si on s'attaque aux touristes en Égypte, c'est peut-être aussi pour supprimer ce goût de l'histoire. Et ça, c'est très, très passionnant, parce que vous êtes un des rares à dire encore aujourd'hui que tout converge pour supprimer l'histoire, pour faire des esclaves, finalement.
Oui, ça, c'est un des aspects du problème, effectivement. Mais l'Égypte était plus facilement contrôlable parce que il reçoit des subventions américaines importantes, étant donné sa situation. L'Égypte est peuplée par un très grand nombre d'habitants, près de 80 millions. Le Nil ne suffit pas à faire vivre ce pays, si bien qu'il est en certaine mesure tenu d'être en bonne relation avec les finances américaines. Et en plus, comme il a un grand prestige psychologique, moral et religieux dans tout le monde de l'islam, on ne se le met pas à dos. D'ailleurs, il faut vous rappeler que lorsqu'il y a eu la nationalisation du canal de Suez, à la grande surprise des Français et des Anglais, on a vu les Américains qui avaient signé avec nous le traité nord-atlantique en 1949, quelques années plus tard, se tourner contre nous, se mettre d'accord avec la Russie, au fond, contre nous, de manière à faire cesser notre opération de Suez. Déjà à cette époque, le choix avait été fait, à savoir qu'on ne pouvait pas, quand on était américain, heurter de front le monde de l'islam détenteur d'une quantité considérable de richesses pétrolières.
Alors vous dites une chose, je ne sais pas si c'est vous ou Alexandre Del Valle, parce que vous avez écrit tous les deux un livre qui a suscité un tas de réactions. Et il y a un moment donné, l'un de vous deux, ou peut-être les deux, qui dit qu'il y a une convergence finalement entre la globalisation d'un côté et la Oumma musulmane, c'est-à-dire la globalisation du peuple musulman de l'autre. Est-ce qu'en effet, aujourd'hui, tout ne converge pas d'une manière très étrange? Est-ce que tous les contraires ne s'allient pas? Vous avez parlé de la Russie et de l'Amérique qui ont commencé à s'allier à un moment donné. Est-ce que tous les ennemis d'hier ne se fondent-ils pas dans une sorte de magma idéologique où l'on n'arrive plus à se battre pour quelque chose? Est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons du désespoir actuel? C'est-à-dire que vous vous battiez pour être libre. Vous saviez ce qu'était être libre. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait encore ce que peut être la France libre? Comment la définiriez-vous?
Non, là, ce que, actuellement, je crois, il y a cette révolte, dont je disais qu'elle est une une réaction au matérialisme économique, puisqu'il y a un mélange religieux, un mélange ethnique dans l'opération. C'est une révolte qui consiste à tenir tête, ou plutôt à exploiter, le fait que ces peuples détiennent des richesses que d'autres peuples convoitent et voudraient obtenir à bas prix, si possible.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même dans tout cela une dimension culturelle? Jean Monnet avait dit que l'Europe ne serait pas si elle n'était pas culturelle. On l'a oublié aussi. On a oublié que la dimension culturelle du passé, de la mémoire dont on veut faire table rase, etc., c'est pour ça que vous vous battiez aussi. Vous vous battiez pour une idée de la France qui était évidemment inscrite dans votre mémoire et dans l'inconscient collectif. Est-ce que tout ça n'est pas en train de disparaître, précisément? Est-ce que ce n'est pas une des guerres d'aujourd'hui, ce que Volkov appelait la guerre de la désinformation, bien plus grande que quand on cherche à désinformer? C'est une désinformation, finalement, apparemment, à tous les niveaux.
L'avidité économique des pays occidentaux en particulier, en quête de marché, en quête de survie, finalement, économique, a justement créé ce sentiment. C'est-à-dire qu'il a pris le dessus sur les problèmes culturels ou les problèmes idéologiques, mais ce n'est pas apparent, c'est en sous-main.
Alors, Général, un jour, moi, je vous ai dit comment résister à tout cela. Et vous m'avez répondu, j'ai dit, si j'avais 20 ans, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Et vous m'avez répondu, vous vous rappelez d'aller à la plage à Hawaï.
Par exemple, aller en Polynésie.
Et est-ce que ça serait la Polynésie, c'est déjà des essais nucléaires. Est-ce que ça serait votre réponse à quelqu'un de jeune qui voudrait quand même maintenant s'engager dans un combat pour l'Europe, pour des idées? Qu'est-ce que vous lui répondriez?
Non, on ne peut pas décourager un jeune, ça n'est pas, c'est malhonnête. On ne peut pas le faire. On peut plaisanter sur ce sujet, oui.
Mais alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de jeune, que je ne suis plus, mais enfin...
Eh bien, qu'il vaut mieux mourir debout que couché.
Toujours.
Et on en retire au dernier moment des satisfactions morales.
Bien. Merci Général, nous transmettrons le message. C'était le Général Gallois dans son parcours avec Elisabeth Antebi. Merci.